VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. Deuxième journée dans le groupe A ce mercredi à Libreville. Le point avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Rien n'est joué dans ce groupe A ici à Libreville où les quatre équipes ont procédé à un partage de points en première journée à la faveur de deux matchs nuls. La deuxième offre l'occasion de se démarquer et en premier match ce soir, le Gabon croise le fer avec le Burkina Faso. Les Panthères gabonaises n'ont pas vraiment convaincu le 14 janvier dernier lorsqu'elles ont laissé filer l'occasion d'engranger trois points face à une équipe bissau-guinéenne qui fait ses débuts à la CAN et qui manquait visiblement d'expérience. Contre les étalons du Burkina Faso, la tâche ne sera pas facile, même avec le soutien du public gabonais. Après le nul du Burkina face au Cameroun, le coach burkinabé Paulo Duarte avait dit que ses attaquants n'avaient pas tout à fait compris sa stratégie. Aucun doute qu'il a fait quelques ajustements pour rectifier le tir ce soir. En second match, Cameroun-Guinée-Bissau, trois points presque assurés pour les Lions indomptables, mais attention, les Licaons bissau-guinéens ont probablement tiré les leçons de leur match nul contre le Gabon et pourraient donc se montrer beaucoup plus entreprenants ce soir.
Hier, dans la poule C, le Ghana a réussi son entrée dans la compétition grâce à un pénalty transformé en première mi-temps par André Ayew. Les Black Stars, vice-champions en titre, ont pris le meilleur sur l'Ouganda par le plus petit des scores, 1-0. Suffisant pour les Ghanéens pour prendre la tête du groupe D localisé à Port-Gentil. Et ce, en raison du match nul 0 partout entre le Mali et l'Égypte. Les Aigles maliens et les Pharaons égyptiens ont fait jeu égal et chacune des deux équipes aurait pu l'emporter sur une pelouse difficile. Timothée Donangmaï.
Le Mali et l'Égypte ont coupé la poire en deux, se quittant sur un score vierge. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué de part et d'autre. À travers un interprète, le coach des Pharaons, Hector Raoul Cooper.
Le Mali a des joueurs d'un plus grand gabarit. Nous avons tenté de contrôler le jeu en vain. Nous avons mieux joué en seconde période, mais nos joueurs étaient trop fatigués.
Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles du Mali, lui aussi a reconnu que l'adversaire était tenace.
Je pense que ça a été un match assez équilibré contre une bonne équipe. Bien sûr que nous espérions la victoire. C'est somme toute le résultat nul paraît logique. On a bien fini cette rencontre. En tout cas, moi j'ai apprécié l'organisation de notre équipe dans cette rencontre et surtout que nous soyons mis au niveau de la compétition dans cette première rencontre.
En deuxième journée du groupe D, défi de taille pour les Maliens face aux Ghanéens. Tâche peut-être plus aisée pour les Égyptiens contre les Grues Ougandaises. Timothée Donangmaï, Port-Gentil, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, l'ONU a déclaré ce mercredi à Kinshasa n'avoir recueilli aucune information fiable sur une éventuelle incursion dans l'est du pays d'ex-rebelles congolais du mouvement du 23 mars, le M23, actuellement exilé en Ouganda. Le gouvernement congolais avait fait état dimanche d'une incursion d'environ 200 ex-combattants du M23 à Ishasha, localité proche de la frontière ougandaise. Accusation rejetée par Kampala qu'il avait qualifiée de fruit de l'imagination des autorités congolaises. Le colonel Félix Prosper Bass, porte-parole de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a dit aujourd'hui n'avoir aucun indice pouvant confirmer la présence d'éléments du M23 en RDC. Et toujours concernant la RDC, la majorité présidentielle exige la part du lion dans le partage des postes du gouvernement qui sera issu de l'accord du 31 décembre. Elle demande à la CENCO, la conférence des évêques catholiques qui font office de médiateur, de tenir compte du poids politique de chaque camp au prorata de la représentation à l'Assemblée nationale. On écoute Christophe Colomoni, secrétaire national du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, du président Joseph Kabila.
Je suis très passé sur les équipes de la CELICO. Nous ne pouvons pas vous dire combien de postes, mais nous avons émis des voeux là de tenir compte de la représentation ou du poids politique des partis en présence. Il serait important peut-être de tenir compte de ce partage-là en passant par une formule mathématique de pondération par rapport à la représentation au niveau du Parlement.
Christophe Colomoni, secrétaire national du parti du président Joseph Kabila. Mali, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui dans un camp militaire de Gao dans le nord du pays, faisant des dizaines de morts et de nombreux blessés. Le bilan est de 37 morts, a affirmé à l'AFP une source militaire au sein de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. L'information a été confirmée par une source administrative à Gao. Le camp abrite des troupes gouvernementales ainsi que les membres de divers groupes armés qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville en vertu d'un accord de paix soutenu par l'ONU. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien est censé se réunir aujourd'hui pour tenter de stopper le mouvement de colère des militaires dont les violences ont déjà fait deux morts et qui risquent de dégénérer en une révolte généralisée. Signe de la tension persistante, des tirs et parts ont été entendus dans la matinée à Abidjan et Bouaké, deuxième ville du pays, épicentre de la mutinerie qui a commencé le 5 janvier. À Abidjan, ce sont des gendarmes qui tiraient en l'air dans le port de pêche, selon des médias ivoiriens. Et à Bouaké, ce sont des gardes pénitentiaires qui manifestaient leur colère, selon l'AFP. Mardi, le premier paiement aux 8500 mutins anciens rebelles intégrés de l'armée qui avaient protesté au début du mois a déclenché un mouvement d'humeur des autres forces de sécurité qui estiment elles aussi avoir droit à une prime. D'autant que cette prime de 12 millions de francs CFA, environ 18 000 euros, dont 5 millions payés ces jours-ci, est astronomique dans un pays où les salaires moyens avoisinent les 100 000 francs CFA, soit 150 euros. On passe maintenant à l'actualité aux États-Unis. Dans deux jours, c'est-à-dire le 20 janvier, Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis. Un des principaux défis du milliardaire républicain sera d'équilibrer les promesses de campagne qu'il a faites à ses partisans tout en prenant des mesures pour guérir la nation après une campagne particulièrement rude. Une analyse de notre collègue Jim Malone, reprise ici par Claire Morin-Gibault.
The president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump.
L'étonnante victoire électorale de Donald Trump semble encore un rêve pour certains de ses partisans et il a rapidement parlé de réconciliation dans son discours de victoire.
Je dis qu'il est temps pour nous de nous unir comme un seul peuple. United people.
Mais la victoire de Trump a été marquée par des protestations dans tout le pays, de l'Oregon et de la Californie dans l'Ouest, dans sa ville natale de New York et dans le Massachusetts à l'Est du pays. Écoutons une manifestante anti-Trump.
Je suis déçue, il me fait peur.
Il y a également eu des incidents d'intimidation post-électorale ciblant les minorités et les musulmans. Une question sur laquelle Trump a été interrogé lors d'une interview pour l'émission 60 Minutes de la chaîne CBS.
Je suis tellement attristé d'entendre cela et je dis arrêtez.
Réduire la fracture politique est aussi une préoccupation pour le président Barack Obama.
Il est vraiment important d'essayer d'envoyer des signaux d'unité et d'atteindre les groupes minoritaires ou les femmes ou d'autres personnes qui étaient préoccupées par le contenu de la campagne.
Trump a annoncé les principales nominations de son gouvernement, dont le président du Parti républicain, Reince Priebus, et Stephen Bannon, un journaliste très controversé à droite, comme son principal conseiller politique. Le premier test important pour Trump est la composition de son futur gouvernement, dit John Fortier, qui travaille pour un centre bipartisan spécialisé sur les politiques américaines.
Le processus de recrutement d'un gouvernement est important en Amérique et comme c'est un candidat à part, il n'a pas les connexions traditionnelles, ce que les cadres traditionnels d'une administration auraient.
Mais la capacité de Trump à réussir une unité nationale a plus à voir avec le ton de sa rhétorique, selon Molly Reynolds de l'institution Brookings.
Nous avons l'image de Trump que nous avons vu sur les routes lors de la campagne, et puis nous avons une version légèrement plus posée de Trump que nous avons vu émerger de temps en temps. Et la question de savoir si cette facette, qui est apparue si peu au cours de la campagne présidentielle, sera celle qu'il montre quand il arrivera à la Maison Blanche. Nous ne le savons pas.
Trump continue d'annoncer les membres de son cabinet. Ses choix donnent déjà le ton qu'il a choisi pour mener sa présidence.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.